Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachan. Au Capi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service en direct de la salle de conférence de l'UNICEF ici à Kinshasa. Et merci à vous d'être venus nombreux participer à cette émission sur la malnutrition infantile. Nous avons un seul thème dans cette émission, merci pour vos applaudissements. Un seul thème, comment lutter contre la malnutrition infantile en République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, nous avons Dr Victor Aguayo, directeur de nutrition à l'UNICEF à New York. Dr Victor, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Nous avons également sur ce plateau professeur Émile Okitolanda, professeur de nutrition à l'Université de Kinshasa et à l'École de santé publique. Professeur Okito, bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien et merci de participer à cette émission. À la technique, Sylvain Baouguere, Tati Mapoukou à la réalisation, Jody Daniel Kachama à la présentation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous. Bien, la République démocratique du Congo reste un des pays au monde ayant la plus grande charge d'enfants malnutris. Plus de 6 millions d'enfants souffrent de la malnutrition chronique ou le retard de croissance, d'après l'UNICEF. Et en outre, plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans sont victimes de la malnutrition aiguë ou la maigreur. Alors, quelles sont les conséquences de la malnutrition? Comment faire face à l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo? Quelles sont les stratégies de l'UNICEF pour lutter de manière globale contre la malnutrition infantile? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale au Capi Service. Alors, nous recevons à présent Dr Victor Aguayo, qui est directeur nutrition à l'UNICEF. Il vient de New York, il séjourne ici dans notre pays. Dr Victor, bonjour.
Bonjour.
Alors, là, nous parlons de la malnutrition infantile en République démocratique du Congo, mais de manière globale, comment se présente le tableau ou la situation à travers le monde?
D'abord, dire que je suis ravi d'être ici avec vous tous en République démocratique du Congo à Kinshasa. Ce n'est pas ma première fois, mais je suis toujours content d'être de retour chez vous. Deuxièmement, par rapport à votre question, nous avons une situation nutritionnelle au monde qui est une situation qui appelle à l'espoir, mais qui appelle au souci aussi. Pourquoi elle appelle à l'espoir? Parce qu'on voit quand même que les taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde, en gros, sont en train de diminuer. Et ça, c'est une raison pour avoir de l'espoir. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, éliminer la malnutrition chez les enfants. Pourquoi les soucis? Parce que malgré le fait que les taux de malnutrition chez les enfants sont en train de diminuer, cette diminution elle n'est pas assez rapide. Nous avons encore plus de 150 millions d'enfants dans le monde qui souffrent du retard de croissance à cause de la malnutrition. 151 millions à l'an 2017, c'est encore beaucoup trop d'enfants. C'est un souci pour nous, mais nous savons que là où il y a la volonté politique, là où il y a les investissements qu'ils font, la malnutrition peut disparaître.
Et quelles sont les raisons à la base de la malnutrition à travers le monde?
Les raisons sont multiples, mais on peut dire que finalement, pourquoi un enfant, à un moment donné, dans sa croissance, devient mal nourri? C'est une combinaison de deux facteurs, principalement. Soit un enfant qui n'est pas nourri convenablement, c'est-à-dire qui ne reçoit pas les nutriments dont l'enfant a besoin pour survivre, pour se développer et pour grandir correctement. Soit l'enfant est malade, il éprouve des infections ne lui permettant pas de grandir correctement. Soit une combinaison des deux, c'est-à-dire manque d'aliments, de nourriture et une santé qui n'est pas à la hauteur de la croissance de l'enfant. Ah, donc ça, c'est les deux raisons. Des raisons sous-jacentes au niveau des ménages, c'est soit une malnutrition chez la mère, une malnutrition qui donc se perpétue de génération en génération, des mères mal nourries qui met au monde des enfants avec un faible poids à la naissance qui ne sont pas capables de grandir convenablement. Il y a bien sûr la pauvreté, et il y a bien sûr aussi la sécurité alimentaire et les infections et les maladies.
Bien, nous avons également sur ce podium Monsieur Noël Zagre, c'est Noël Zagre, je crois. Il est conseiller régional en nutrition à l'UNICEF. Il est basé à Dakar. Monsieur Noël, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, quelle est la situation au niveau régional, la situation de la nutrition au niveau régional ici en Afrique?
Merci. Je suis également content d'être là parmi vous. Comme disait mon collègue Victor. Je suis déjà venu dans ce pays quelques fois, mais en tout cas au moins une fois chaque année. Et ce que nous pouvons signaler, c'est que la RDC et au niveau de la région représente un poids absolument important, étant donné que notre région compte environ 28 millions d'enfants en retard de croissance. Et sur les 28 millions, il y en a 6 millions qui sont ici. Et nous avons en tout 24 pays.
RDC est parmi les pays qui ont une très grande charge.
Exactement. Oui. Mais pour mettre cela en perspective et mettre la région en perspective avec l'ensemble du monde, comme le disait, n'est-ce pas, Dr. Victor, on a observé une réduction du nombre d'enfants en retard de croissance au niveau mondial. Donc ceci est très bien, c'est très appréciable. Malheureusement, dans notre région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons observé une augmentation. Et ceci peut être...
Et quelles sont les raisons à la base de cette augmentation?
Eh bien, les raisons peuvent être analysées sous différents angles, mais je dois affirmer que du point de vue du pourcentage des enfants qui sont en retard de croissance, on a observé une diminution en termes de proportion, mais en termes de nombre d'enfants, parce que vous savez que dans notre région, nous avons aussi une forte croissance démographique. Donc quand on traduit cela en nombre d'enfants en retard de croissance, on a vu, n'est-ce pas, une augmentation. Alors, une des raisons principales, c'est évidemment la croissance démographique, mais les vraies raisons essentielles et fondamentales viennent avant tout au niveau de la qualité de l'alimentation des enfants. Je pense que ça, c'est extrêmement important à retenir. Nous avons besoin de nous assurer que les mamans qui ont des bébés, ces bébés puissent bénéficier dès leur naissance du lait maternel qui est le meilleur aliment pour commencer. Et puis, à partir du sixième mois, le message central, c'est s'assurer que l'enfant continue à avoir du lait maternel et à avoir une alimentation diversifiée. Malheureusement, nous n'avons pas cela au niveau de notre région pour l'instant.
D'accord. On va donner la parole au professeur Émile Okitolonda. Comme je le disais à l'introduction, il est professeur de nutrition et épidémiologiste à l'Université de Kinshasa et il enseigne également à l'École de santé publique. Professeur, comment se présentent les tableaux de la nutrition des enfants ici dans notre pays? Déjà, on parle des 6 millions, la charge est tellement lourde, on parle des 6 millions d'enfants malnutris, c'est quand même beaucoup.
Oui, c'est beaucoup et ça pose des problèmes par rapport au développement de notre pays parce que un enfant qui est mal nourri, il y aura des conséquences à long terme pour d'abord sa croissance et puis même quand il sera adulte, il y aura des conséquences. Il y a des séquelles indélébiles.
Lesquelles par exemple, professeur?
J'avais peut-être parlé de niveau de malnutrition. chez les enfants. Donc, chez les enfants de moins de 5 ans en RDC, on remarque que c'est presque la moitié de ces enfants qui souffrent de la malnutrition, la forme chronique de la malnutrition. Donc, vous voyez, c'est entre 42 et 43%. C'est très grave. En ce qui concerne la malnutrition aiguë, c'est-à-dire l'émaciation, c'est autour de 10%, entre 8 et 9%. Et en ce qui concerne l'insuffisance pondérale, c'est autour de 23%. Donc, on a essayé, on a vu, on a fait des programmes. Il y a très peu de changements par rapport à ces indicateurs-là. Et les conséquences, comme j'ai dit, les conséquences chez ces enfants-là, c'est que ces enfants vont connaître un retard de croissance et ce retard est irrécupérable par rapport aux enfants qui ont été bien nourris.
Professeur, dans quelle partie du pays où il y a beaucoup plus de cas de malnutrition infantile?
Bon, c'est un peu réparti partout, mais il y a certaines provinces. Moi, chaque fois que je cite les provinces, les gens protestent. Ah, moi, je préfère
ne pas citer les provinces, d'accord.
Oui, oui.
Mais on peut quand même savoir si c'est dans la partie nord, dans la partie sud ou à l'est du pays.
C'est réparti à travers le pays, mais il y a des provinces qui sont plus touchées que d'autres. Ça, c'est sûr. Mais vous savez, par exemple, que là où il y a la guerre, là où il y a les déplacements des populations,
à l'est du pays,
ces régions-là sont
les plus touchées.
L'autre conséquence, c'est au niveau du développement du cerveau. Vous savez que le cerveau se développe presque complètement jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire, après 3 ans, vous pouvez tout faire. Le cerveau va se développer un tout petit peu, mais plus suffisamment. N'est-ce pas? Donc, si on ne fait rien entre le moment de la conception de l'enfant, à partir de la conception de l'enfant, jusqu'à l'âge de 2 ans, cet enfant devient pratiquement irrécupérable pour certains aspects.
Voilà. Docteur Victor Aguayo, quelle est la stratégie globale de l'UNICEF par rapport à la lutte contre l'insécurité alimentaire?
Professeur vient de signaler quelque chose qui est très important, c'est l'aspect crucial de cette première étape de la vie. Cette première étape qui commence, comme vient de signaler, à partir du moment de la conception. Donc on ne parle pas seulement à partir de la naissance, mais à partir du moment de la conception. Donc là, il y a une nouvelle vie qui commence à se développer et une nouvelle vie qui est déjà très sensible à l'environnement alimentaire, bien avant la naissance. D'où l'importance de l'alimentation de la maman pendant la grossesse, première chose. Et deuxième chose, le professeur a fait aussi référence aux 2 premières années de la vie. Donc en fait, si vous comptez, du moment de la naissance jusqu'à la fin de la 2e année de la vie, en fait, c'est une période de 1000 jours. Période de laquelle on parle comme c'est une fenêtre d'opportunité. 1000 jours pour faire une différence dans l'état nutritionnel des enfants. Et si on manque cette fenêtre d'opportunité, c'est une fenêtre qui ensuite va se fermer pour ne jamais plus s'ouvrir. Donc je veux d'abord, comme le prof l'a fait ici bien maintenant, attirer l'importance sur le fait que la prévention dans les premiers jours de la vie, à partir du moment de la conception, est très importante. Donc l'importance d'une prise de poids de la part de la maman, une bonne nutrition pendant la grossesse, pour assurer un bébé qui a un poids qui convient et une taille qui convient à la naissance. Et professeur docteur Noël l'a signalé aussi, l'importance de l'alimentation de l'enfant dans les 2 premières années de la vie. Et dans cette alimentation de l'enfant dans les 2 premières années de la vie, 2 composantes centrales, c'est l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire que du lait maternel jusqu'au 6e mois, et entre le 6e mois et le 24e mois, du lait maternel avec une alimentation de compléments qui est une alimentation de compléments permettant à l'enfant de se développer jusqu'à son potentiel. Donc vous me demandiez quelle est la stratégie de l'UNICEF. D'abord, c'est de mettre l'accent sur cette fenêtre d'opportunité de 1000 jours. À partir du moment de la conception, à partir du moment de ce départ d'une nouvelle vie, de ce bébé qui est en train de se développer, jusqu'à la deuxième anniversaire. C'est là où nous devons mettre nos stratégies, nos forces.
On doit beaucoup plus concentrer nos efforts. Sous vos applaudissements, au CAPI Service, en direct de l'UNICEF, nous parlons de la lutte contre la malnutrition infantile. Alors, y a-t-il des questions? Des questions dans la salle par rapport à cette thématique? Des questions? Juste lever la main. Tati est là, va vous donner le micro pour poser vos questions.
Jusque-là, non, Jody.
Aux intervenants.
Jusque-là, non.
Voilà, il y a déjà des questions, Tati. Merci de vous tenir debout. Vous allez juste me donner votre nom et puis et poser votre question.
Merci pour la parole. Je me nomme Delice Loubaya. Ma question, c'est, j'aimerais la poser à Monsieur Joël. Vous avez dit que Monsieur Noël.
Voilà.
Oui, Monsieur Noël. Vous avez dit que la base du problème de malnutrition que nous avons se situe au niveau de la qualité des aliments. Ma question est de savoir qu'est fait l'UNICEF, qu'est font le docteur, le professeur que nous avons pour améliorer la qualité de nos aliments.
Merci. Une autre question? Oui, madame.
Merci. Madame Anastasie Sika, je suis présidente de l'ONG à Action pour la protection de la santé humaine, animale et végétale et membre du collectif d'entrepreneurs du Congo. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Victor, qui a dit que l'accent devait être mis dans le 1000 jours de l'enfant. Alors, je voudrais savoir si déjà l'UNICEF préconise quelques actions ou bien quelles sont les actions que l'UNICEF a déjà menées pour justement protéger ces enfants-là de 0 à 1000 jours. Merci.
Merci pour d'autres questions. Voilà, il y a une autre question là-bas, Tati. Voilà. Nous parlons de la lutte contre la malnutrition infantile en République démocratique du Congo.
Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est Samantha Malonga, je suis de l'ISTEM. Alors ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, par rapport aux enfants qui n'ont pas connu leur mère, par rapport aux différents événements, alors que pourriez-vous dire ou comment remédier à cela suite par rapport à l'allaitement exclusif? Voilà.
Merci. Voilà, on revient sur ce plateau. Monsieur Noël Zagré, vous avez la parole.
Merci beaucoup et merci pour cette question très pertinente de que faut-il faire, qu'est-ce que l'UNICEF fait, que font les acteurs en général pour aider et à améliorer l'alimentation des enfants en bas âge. Et comme je disais tantôt, cela se situe à deux niveaux après la naissance. C'est d'abord l'allaitement maternel optimal qui comprend la mise au sein précoce, c'est-à-dire que le bébé qui naît, qui devrait pouvoir avoir accès au lait maternel dans la demi-heure qui suit. Après ça, c'est l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire que le bébé, jusqu'à 6 mois, devrait recevoir que le lait maternel à volonté. Et pas d'eau, pas de décoction, pas de jus d'orange, pas de lait artificiel, rien que le lait maternel.
Mais les mamans disent souvent que les enfants sont des êtres humains, ils ont besoin de prendre aussi de l'eau comme tout le monde.
Nous venons d'arriver de Bumbu ce matin, nous avons eu l'occasion d'écouter des braves femmes qui expliquaient que le lait maternel contient suffisamment d'eau. La première partie de l'allaitement chez un bébé, c'est essentiellement de l'eau que l'enfant, le bébé boit. Et la deuxième partie de l'allaitement va apporter les autres éléments. Donc c'est pour dire que toutes les données que nous disposons et aussi l'expérience qu'il y a montrent bien que il est possible et c'est même la recommandation que les bébés puissent recevoir le lait maternel exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question « qu'est-ce que nous faisons pour aider à cela ?», vous avez sûrement entendu parler, n'est-ce pas, du code de commercialisation du lait maternel, des substituts du lait maternel. Mm-hmm. Donc, ce code qui a été mis en place depuis plus d'une cinquantaine d'années, qui régule la publicité autour des laits artificiels, des laits en poudre. Parce que l'utilisation de ces produits, évidemment, décourage l'allaitement maternel. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que les compagnies commerciales qui font de la fausse publicité avec de beaux bébés sur les boîtes de lait, que cela puisse s'arrêter. Ça, c'est un des fers de lance de l'UNICEF pour arriver à éviter ça.
Deuxième élément très concret que nous faisons, c'est travailler pour mieux comprendre, et comme vous l'avez dit, pourquoi nous avons encore des taux faibles d'allaitement exclusif au sein. Et nous avons bien réussi à comprendre que dans la plupart des cas, c'est justement parce que la maman donne de l'eau
à son bébé
en croyant bien faire, parce que les mamans aiment leur bébé, pour elles c'est une bonne chose, mais le bébé, son estomac est si petit que si vous donnez de l'eau au bébé, ça occupe une partie de l'estomac. Si je ne m'abuse, je pense que ça doit faire dans les 200 ml l'estomac d'un bébé. Alors imaginez que vous donnez de l'eau à ce bébé, cette eau va occuper une bonne partie du petit estomac du bébé, donc il ne reste plus d'espace pour le lait, lequel lait contient les éléments nutritifs. Ça c'est un. Deuxième élément, c'est que cette eau, on ne peut pas garantir qu'elle soit entièrement potable. Donc vous donnez cette eau au bébé, vous l'exposez à des risques de contamination bactérienne, et donc bonjour les diarrhées, bonjour tout un ensemble d'infections qui contribuent à fragiliser ce jeune bébé. Troisième élément, c'est que moins le bébé tète, moins la mère produit du lait. Donc, plus.
Mais il y a souvent des mères qui se plaignent, elle a mis au monde son bébé, mais n'arrive pas à produire le lait comme il faut, et souvent les femmes s'en plaignent souvent. Et préfère donner le lait artificiel.
Je voudrais donc continuer en insistant sur le fait que ce sont des perceptions qui sont fausses. Toutes les mères, sauf dans des cas particuliers qui sont reconnus au plan médical, toutes les mères peuvent produire assez de lait pour leur bébé. Il s'agit justement de faire en sorte que les mères soient soutenues, soient supportées et soient encouragées, parce qu'il faut reconnaître que allaiter exclusivement tous les jours requiert que l'ensemble de la famille, y compris le papa du bébé, y compris la communauté, que tout le monde effectivement manifeste ce soutien, manifeste cet amour pour que tout cela puisse aller.
Professeur,
mais de façon concrète,
oui,
pour insister sur le fait de donner de l'eau, c'est que le fait de donner de l'eau contribue à réduire la capacité de la maman à allaiter. Parce que moins le bébé tète, moins la mère va produire du lait, et à terme, elle va dire « j'ai pas de lait ». En réalité, c'est parce qu'elle a donné de l'eau au bébé.
D'accord. Professeur Okito, un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à l'allaitement maternel exclusif. On le voit même ici chez nous, dans les quartiers populaires, la maman, on la conseille par exemple de prendre beaucoup de thé pour produire énormément de lait, ou de prendre un certain nombre d'aliments, mais après elle se plaint toujours que je n'ai pas assez de lait pour donner à mon bébé, alors elle préfère ajouter un peu d'eau.
Et nous regroupons tout ça sous le terme, je crois, ignorance des mères, pas seulement des mères, mais même de l'entourage, hein, qui donne de fausses informations. Une mère, nous disons même, une mère qui est légèrement mal nourrie va produire un lait de qualité. Ce lait-là commence par le colostrum, qui est le premier lait. Ce lait-là est très riche en éléments protéiques et en certains micronutriments. Donc c'est très important de commencer l'allaitement par...
Professeur, merci de rapprocher le micro de la bouche.
Donc voilà, commencer l'allaitement très tôt après la naissance.
Mm-hmm.
Ensuite, il faut se dire que c'est à la demande. L'enfant va commencer à... Et il y a l'enfant qui va commencer à demander et la mère qui va inciter aussi l'enfant à téter. Parce que c'est... En fait, l'allaitement maternel, même la sécrétion, la production du lait maternel, est stimulée aussi par la succion de l'enfant. Mmh. Donc, c'est important de commencer tôt l'allaitement maternel, et c'est important de dire à la mère, hein, de donner à tout moment quand l'enfant demande ce lait.
Parfois c'est compliqué pour les femmes qui travaillent par exemple, elles sont obligées chaque matin de laisser leur bébé et d'aller travailler. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire?
Actuellement, ce qui est recommandé, c'est vraiment encourager l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est-à-dire qu'au niveau de la législation, nous devons changer. On doit changer. Soit on donne un congé maternel assez prolongé à la mer, soit on crée ce qu'on appelle des structures au niveau du travail pour que la maman ait l'occasion de sortir fréquemment allaiter son enfant. Ça, c'est important. Bien sûr, oui. Que chez nous aussi. Vous voyez, chez nous, quand une maman vient d'accoucher, qu'est-ce qui se passe, hein, dans certaines tribus, hein, la maman ne travaille pas, elle est entourée.
Elle est à la maison, elle est entourée de beaucoup de personnes qui font les travaux.
Ce sont des bonnes pratiques. C'est ça que nous devons suivre.
Voilà, mais docteur Victor, il y a une question qui vous a été adressée tout à l'heure par rapport aux actions à mener pour, en faveur des enfants de 0 à 8 ans.
Je pense que la question qui m'a été posée, c'est sur la stratégie de l'UNICEF pour la lutte contre la malnutrition chez les enfants. D'abord, je voudrais dire un mot sur l'UNICEF. Où est-ce que nous sommes présents? Nous sommes présents dans la plupart des pays au monde. Et parce que nous sommes présents dans la plupart des pays au monde, nous devons répondre à des situations, y compris des situations nutritionnelles très diverses. Maintenant et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les différences, mais je vais rentrer dans ce qui est commun à notre stratégie autour du monde. D'abord, un accent sur la prévention, c'est-à-dire prévenir la malnutrition chez l'enfant. Comment est-ce qu'on prévient la malnutrition chez l'enfant? Le professeur et docteur Zagré ont mis l'accent sur cette fenêtre d'opportunité dont on parlait, c'est-à-dire du moment de la conception jusqu'au deuxième année de la vie, c'est 1000 jours, la fenêtre d'opportunité. Donc je n'y reviendrai pas sur l'importance de l'alimentation de la maman pendant la grossesse et l'alimentation de l'enfant pendant les deux premières années de la vie. Premier axe, donc, la prévention. Deuxième axe, c'est l'accent sur ces 1000 jours de la conception au deuxième âge. Troisième axe, c'est est-ce que vous saviez que 70% des enfants mal nourris au monde vivent dans 10 pays seulement? C'est-à-dire, il y a 10 pays dans le monde, dont la République démocratique du Congo, qui en fait abrite 70% des enfants mal nourris au monde. Donc ces 10 pays pour nous sont des pays d'une importance particulière, parce que si on réussit dans ces 10 pays, on va réussir dans le monde. Donc la prévention, les plus jeunes, les pays les plus touchés, et dans tous les pays, les enfants les plus vulnérables à plus haut risque. Qui sont ces enfants? En plus d'être les plus jeunes, ce sont les enfants qui appartiennent à des couches sociales les moins favorisées ou les plus défavorisées.
Donc on peut dire que la pauvreté aussi est un élément.
Certainement, la pauvreté explique pas la totalité du défi de la malnutrition, parce qu'on voit aussi fréquemment des cas de malnutrition chez des enfants qui vivent dans des ménages qui ne sont pas forcément pauvres. C'est-à-dire que la connaissance, même là où il n'y a pas la pauvreté, la méconnaissance, l'ignorance peut conduire à la malnutrition. Mais il est certain que dans un ménage, dans une communauté pauvre, extrêmement pauvre, le risque de malnutrition peut se lever. Dans tous les pays, travailler avec trois systèmes. Le système de santé, le système alimentaire, et bien sûr, le système de protection sociale pour protéger ces enfants dont on parlait, les enfants les moins favorisés, les enfants les plus vulnérables à plus haut risque.
Bien, merci de suivre cette émission au CAPI Service. En direct de la salle des conférences de l'UNICEF, nous parlons aujourd'hui de la malnutrition infantile en République démocratique du Congo et de manière globale, quelles sont les stratégies adoptées par l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition. D'autres questions dans la salle? Oui. Merci de vous tenir debout, de décliner votre identité avant de poser la question.
Je suis M. Levic, je suis de CODICO, je suis du collectif de développement. Je suis très intéressé par le sujet qui est abordé aujourd'hui. Mais ma préoccupation et ma question, je voudrais l'adresser au professeur Okito, qui est de l'école de santé publique, en fait, qui est de la santé publique. Quand on parle du fléau 6 millions au Congo, c'est préoccupant. Je voudrais seulement savoir, professeur Okito, vous qui êtes de l'école de santé publique, qui enseignez ceux qui doivent s'occuper de la santé publique, y a-t-il une stratégie nationale pour réduire, ne fût-ce que réduire, ce taux de malnutrition? Merci.
Merci pour la question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle par rapport à la malnutrition infantile? Des questions? Ce côté-là, on ne bouge pas beaucoup. Hein. Des questions? Voilà, il n'y en a pas, ça va venir tout à l'heure. Professeur, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je crois que, en tant que homme de santé publique, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une institution d'enseignement et de recherche, nous, ce que nous faisons, c'est que nous devons informer en nous basant, nous devons informer la population en nous basant sur les évidences. Comment est-ce qu'on obtient les évidences? C'est par, essentiellement par la recherche. La recherche, ce n'est pas seulement, la recherche est compliquée. C'est aller auprès de la population et voir ce qui s'est fait. Donc, faire des études, des connaissances, des attitudes et des pratiques. Et à partir de ce moment-là, vous allez déceler des comportements ou de mauvaises connaissances que vous pouvez corriger. Mais on ne peut pas les corriger directement, nous, à partir de l'école, le fait. Mais c'est, nous devons diffuser suffisamment cette information à travers les pays, à travers les systèmes de santé, et nous insistons sur la prise en charge communautaire de la malnutrition. Ça, c'est important. C'est-à-dire
que cela veut dire, professeur, la prise en charge communautaire?
C'est-à-dire que c'est la communauté qui s'occupe de sa santé et de sa nutrition, pas nécessairement le personnel de santé. Donc vous avez les leaders d'opinion, vous avez les mamans qui sont dans les quartiers, les mamans Bongisa, les autres, qui doivent être suffisamment informés et que ces mamans-là aillent encadrer les autres. Et que les dépistages, c'est aussi important. Par exemple, la consultation préscolaire. Bon, ça commence toujours par la consultation prénatale, parce qu'il faut suivre les mamans, parce que nous avons dit que tout commence à partir, même avant la conception. Il faut que la maman se prépare même avant la conception, et puis après la conception, tout au long de la grossesse, pendant les 270 jours, la maman doit être une personne qui doit recevoir un peu d'attention, beaucoup plus d'attention au niveau de sa famille. Moi, je dis toujours que chaque dimanche, bien sûr que beaucoup de gens travaillent, mais au moins chaque dimanche ou chaque samedi, retrouvez-vous en famille et mettez-vous autour d'une table. Mettez à manger, commencez par servir l'enfant le plus petit, remontez jusqu'à l'aîné, et puis servez la maman et le papa en dernier lieu. Vous allez voir que beaucoup de choses
et vont pourtant, changer. Et pourtant, ça ne se passe pas comme ça dans nos familles. Ah. La maman sert d'abord son mari, et puis elle s'occupe de ses enfants, et puis bon, elle va manger la dernière.
Il y a des endroits où on donne, par exemple, les noces à l'enfant. Allez vous débrouiller. Et le papa tourne le dos à l'enfant, il est en train de se taper des gros morceaux de viande. Donc, nous devons changer toutes ces pratiques-là.
Mais, professeur, ne pensez-vous pas que c'est d'abord au niveau du gouvernement qu'on doit adopter une politique claire et précise pour arriver à réduire cette charge des 6 millions d'enfants? C'est quand même énorme.
Bien sûr que la responsabilité est partagée. Mais moi, je dis que c'est d'abord les parents qui ont décidé d'avoir cet enfant. Il ne faut pas chercher d'autres choses. On peut dire l'État doit faire quelque chose, bien sûr, mais la responsabilité première, ce sont des gens qui ont décidé, nous devons mettre au monde un enfant, il faut que ces gens-là s'occupent correctement de cet enfant-là. Hein, c'est ce que je dis.
Le papa est fonctionnaire, il n'est pas payé, bon, maman se débrouille, mais ils n'ont pas assez de moyens pour s'occuper des 4, 5, 6 enfants.
Voilà.
Tout ça, c'est deux problèmes.
Bien sûr que il y a des gens qui travaillent, par exemple au niveau de l'État, et qui ont besoin d'un salaire décent pour s'occuper correctement des enfants. Là, nous allons, il faut dire au gouvernement, moi, je suis assez sincère parce que moi, j'ai fait mes études en Europe, je suis rentré au pays, et je vois que, peut-être pas partout au Congo, je vois que par rapport à certaines catégories,
les salaires commencent quand même à augmenter. Bien sûr que ce n'est pas pour tout le monde, hein, je l'ai dit. Il faut continuer.
Non, apparemment, le public ne vous croit pas.
Non, il faut continuer l'effort. J'ai dit qu'il y a quelque chose.
Il y a quelques efforts qui sont
déjà. Il faut continuer à faire cet effort-là. Ça, c'est sûr.
D'accord. Alors, je reviens à vous, monsieur, docteur Victor Aguayo. Je rappelle que vous êtes directeur de nutrition à l'UNICEF. Vous venez de New York. Alors, dites-nous, au niveau global, quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre pour arriver à réduire quand même le taux de malnutrition à travers le monde?
Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont quand même réussi à peut-être pas éliminer tous les cas de malnutrition. Dans toutes les sociétés au monde, il y a toujours quelques enfants qui sont mal nourris. Donc éliminer complètement la malnutrition, un enfant dans n'importe quel pays peut tomber dans la malnutrition parce qu'une infection, parce qu'un problème de santé. Le problème, c'est quand on a 6 millions d'enfants mal nourris ou 43% d'enfants en retard de croissance. Là, on a un problème. Il y a des pays qui ont quand même réussi à réduire d'une façon très significative le nombre d'enfants mal nourris, ce qui en utilisant des stratégies des fois diverses. Mais ce qui est commun à tous ces pays, c'est que d'abord, il y a eu une volonté politique, c'est-à-dire qu'on a fait de la réduction de la malnutrition chez les enfants une priorité nationale. Et après, la réponse, elle doit être spécifique au pays, mais d'abord, il doit avoir cette volonté au niveau national et au niveau du gouvernement. Parce que je suis d'accord avec le professeur, la première responsabilité vis-à-vis de l'état nutritionnel d'un enfant reste avec les parents qui ont décidé d'avoir cet enfant. Mais la deuxième responsabilité reste avec l'État et avec le pays qui doit soutenir cette famille, ses parents, pour pouvoir fournir à cet enfant tout ce dont l'enfant a besoin pour grandir. Donc il y a une responsabilité étatique et une responsabilité du gouvernement. La volonté politique, faire de l'élimination, de la réduction de la malnutrition une priorité de développement pour les enfants, mais aussi pour le pays. Un, et deux, investir dans des programmes visant à améliorer l'alimentation de la femme pendant la grossesse et l'alimentation de l'enfant dans les deux premières années de la vie. Il n'y a pas de secret, ça marche à tous les coups. Il faut avoir la volonté politique et l'investissement dans des programmes et dans des politiques visant cette amélioration de l'état nutritionnel de l'enfant.
Comment lutter contre la malnutrition infantile en République démocratique du Congo? C'est le thème qu'aborde aujourd'hui le magazine Okapi Service en direct de la salle des conférences de l'UNICEF ici à Kinshasa. D'autres questions dans la salle par rapport au thème du jour? Alors on souhaite qu'on vous posiez beaucoup de questions, beaucoup de questions. Oui, les étudiants de l'autre côté, vous ne bougez pas, bougez quand même, posez des questions.
En fait, je pense que ça c'est une contribution.
Oui.
C'est vrai, nous parlons de la volonté politique, qui est un élément très capital, mais dommage que nous n'ayons pas au milieu de nous quelqu'un du gouvernement à qui nous pouvions bien nous adresser et qui pourrait peut-être nous dire s'il y a déjà des avancées et si peut-être il y a déjà un programme établi par rapport à ça. Parce que 6 millions quand même, c'est énorme. Il faut des actions, de programmes pour au fait chercher comment éliminer cet état de malnutrition dans les pays. Mais c'est vrai, je rejoins le professeur Victor qui a parlé de stratégie politique. Mais moi, je voudrais savoir au niveau de l'UNICEF, parce que l'UNICEF s'occupe des enfants particulièrement. Est-ce que déjà, c'est vrai la volonté politique, on en a besoin, c'est vrai la responsabilité de parents aussi, mais l'UNICEF en soi, je ne sais pas s'il y a deux stratégies, s'il y a deux politiques, s'il y a déjà quoi au fait qui est mis à l'œuvre pour lutter contre cette malnutrition. Merci.
Merci madame. D'autres questions? Oui monsieur. T'as-tu le micro de l'autre côté? Et là-bas au fond, préparez déjà vos questions de l'autre côté.
Bonjour, moi je m'appelle Papi Bambolé, Art en Action. J'aimerais poser la question, demander au professeur Okito s'il peut nous donner, nous expliquer les parties importantes de notre région, de notre pays qui sont touchées par la malnutrition. Le fait de cacher cela, ça ne nous aide pas. C'est vrai que ça peut faire mal, mais c'est important que nous soyons informés de cela, pour que nous puissions aussi faire un effort pour remédier à ces problèmes-là. Merci.
Bien, merci. De l'autre côté, oui.
Ok, merci pour la parole. c'est Yannick Ilosono de l'ISTEM. Et ma question est celle-ci. Je connais un enfant qui a l'âge de 3 mois, mais il présente la constipation. Qu'est-ce qu'on peut lui donner pour... disons pour...
Un enfant de 3 mois, constipé.
Oui. Comment est-ce qu'on peut le soigner?
Est-ce que c'est un signe de la malnutrition ou pas? Bien, comment le soigner? Merci. Une autre question? Voilà, il y a juste là pas d'autres questions. Docteur Noël Zagré, vous avez la parole.
Merci. La question qui a été posée concerne en fait ce que l'UNICEF propose ou suggère comme stratégie, si j'ai bien compris, pour pouvoir arriver à réduire ce nombre d'enfants malnutris. Et je devrais dire que, en effet, l'UNICEF se fait un gros souci d'avoir autant d'enfants malnutris, et comme je disais tantôt, surtout un nombre d'enfants qui augmente, hein, non pas parce qu'on ne travaille pas, mais parce que, comme l'a dit Victor, les progrès ne sont pas suffisamment rapides. Donc, il nous faut accélérer. Et donc, la stratégie d'accélération pour l'UNICEF, qui a fait un plan stratégique au niveau mondial, qui se décline au niveau des différentes régions qui ont leurs spécificités, comme la nôtre, et consiste d'abord à être très clair sur ce qu'il faut faire au plan du programme pour pouvoir arriver à bout de ces questions de malnutrition. Et pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, il faut d'abord comprendre le phénomène. Quelles sont les causes, quels sont les prédicteurs de la malnutrition. Ça, on le fait au niveau de la région, mais ça se fait aussi au niveau de chaque pays pour comprendre. Parce que si la cause est alimentaire et que vous apportez une intervention qui n'est pas alimentaire, vous n'allez pas résoudre la question. Donc l'UNICEF travaille avec les États pour contribuer et les accompagner dans l'analyse de l'information disponible, des données, de façon à bien comprendre la cause, bien comprendre la situation. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qui explique ces taux élevés? Pourquoi ça continue à augmenter? Et une fois qu'on connaît la cause, on connaît les interventions qu'il faut mettre en œuvre.
Ça, on peut dire d'emblée que disons l'allaitement exclusif, maternel exclusif n'est pas encore pratiqué à 100%.
Sans aucun doute.
Même peut-être pas à la moitié, quoi, même pas à 50%.
Tout à fait. Tout à fait. Et au niveau de l'ensemble de notre région, nous sommes à moins de 30% d'enfants qui sont allaités exclusivement au sein. Et au niveau du régime alimentaire diversifié, nous sommes à environ 15% uniquement des enfants. Ok, 15 enfants sur 100 qui reçoivent une alimentation diversifiée à partir de l'âge de 6 mois. Donc, il faut bien comprendre les raisons pour pouvoir trouver les solutions. Une fois qu'on a les solutions, la seconde étape, c'est de faire en sorte que la solution, qui peut être par exemple la mise en œuvre de différentes interventions, puisse toucher le plus grand nombre. Si nous savons par exemple qu'il faut arriver à faire en sorte que les enfants puissent avoir 3 groupes d'aliments par jour, mais que l'intervention que nous mettons en œuvre ne touche, comme je l'ai dit, que 15% des enfants, il n'y aura pas d'impact. Il faut arriver à aller plus haut. Et nous avons des exemples qui prouvent que ça marche.
Alors, docteur Noël, vous parlez de l'alimentation diversifiée à l'âge de 6 mois. Est-ce que les mamans ont suffisamment d'informations par rapport à cela afin de fournir à leur enfant une alimentation équilibrée?
Je vais vous répondre à ça et nous sommes beaucoup d'autant plus à l'aise pour en parler que nous venons de Bumbu. Nous avons rencontré des braves femmes à Bumbu ce matin.
Pourquoi à Bumbu? Parce que c'est les quartiers où il y a beaucoup un taux élevé de malnutrition.
Non, je ne dirais pas que c'est parce que c'est cela, mais c'est juste tout simplement que au niveau donc de la zone de Kinshasa, on avait été contraint par le temps et donc il fallait trouver une communauté à côté donc de la ville pour pouvoir gérer le temps puisque on n'est pas basé ici à Kinshasa. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette localité, Les femmes sont organisées. Elles sont organisées pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la nutrition à assise communautaire. Et nous avons des cellules d'animation communautaire où les femmes sont organisées, elles ont une présidente et elles se voient chaque mois, elles partagent les expériences en matière d'allaitement de leurs enfants, en matière d'alimentation diversifiée. Elles posent aussi des questions les unes aux autres pour que celles qui ont des réponses puissent les aider. Mmh. Et elles font aussi des activités génératrices de revenus qui leur permettent de maintenir leur activité. Et nous avons vu comment ces femmes ont expliqué que même avec des moyens assez limités, qui peut-être ne peuvent pas suffire pour faire manger de façon correcte toute la famille, au moins suffit pour pouvoir nourrir correctement les tout-petits. Donc, c'est
possible. J'ai entendu tout à l'heure que si, même si la maman ne mange pas bien, elle peut produire quand même le lait maternel de qualité.
Même une maman qui n'est pas très bien nourrie va pouvoir fournir suffisamment de lait. Et vous avez vu que très souvent, les femmes, par exemple, qui allaitent, beaucoup maigrissent. Parce que elles se dépensent au profit de son bébé. Voyez-vous? Donc, c'est comme si le bébé était la priorité. Elle va prendre ce qu'il faut, même si sa maman n'a pas pu accumuler les 9 kg de gras au cours de la grossesse pour pouvoir être dépensée pendant l'allaitement, eh bien, elle va puiser dans ses réserves pour pouvoir produire le lait nécessaire.
Est-ce que ce n'est pas dangereux pour elle, pour sa santé aussi?
À terme, ça pourrait être dangereux, mais dans la plupart des cas, on n'observe pas qu'une maman se dépense à tel point que ça mette en danger sa propre vie.
Bien, professeur Émile, il y a une question qui vous est adressée. Quelqu'un il veut savoir quelles sont les parties du pays qui sont les plus touchées par la malnutrition infantile.
Oui, je vais peut-être commencer par répondre à ce que le gouvernement fait. Je crois quand même il y a un programme national.
Le PONANUT, programme national de nutrition.
Qui est là, il y a un plan stratégique. N'est-ce pas? Le grand problème maintenant, c'est de trouver suffisamment de ressources pour soutenir ces activités-là. C'est là que se pose le problème. Il y a vraiment des spécialistes qui seront formés. On vous a dit qu'il y a des nutritionnistes qui sont formés à l'ISTEM, dans beaucoup d'ISTEM. Au niveau des universités. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver cet appui-là du gouvernement. Peut-être que les gens n'ont pas compris quand j'ai dit que le premier responsable, c'est les parents. Moi, j'ai continué à dire que le premier responsable, c'est les parents. Parce que c'est les parents qui décident. Mais bien sûr, ces parents-là, et dans un pays qui a un gouvernement, et le gouvernement a donné des orientations. Et le gouvernement doit prendre en charge des problèmes qui se posent dans ces pays-là. Donc, le gouvernement doit mettre le moyen qu'il faut pour arriver à résoudre ces problèmes.
Professeur Émile, quelles sont les parties les plus touchées?
Vous insistez.
Les plus touchées par la malnutrition? Quelles sont les parties du pays les plus touchées par la malnutrition infantile?
J'ai compris. Donc, il y a ce qu'on appelait dans les temps le Kivu. Hein. On l'appelait d'ailleurs le Kivu montagneux. Hein. C'est une région très riche, mais il y a des problèmes de malnutrition qui se posent chez les enfants. Et donc, ça c'est clair. Et surtout, actuellement, avec les déplacements des populations et les problèmes d'insécurité. C'est une région. L'autre région, c'est peut-être la région des
Bandundu. Du Kasaï, avec le phénomène Kamuina Nsapu.
Non, je parle d'abord de Bandundu.
De Bandundu.
Alors que, vous voyez, nous, à Kinshasa ici, beaucoup d'aliments viennent de Bandundu. N'est-ce pas? On ne peut pas penser que dans ces régions, il y a qui est malnutrition. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens produisent pour vendre. Ils vendent tout. Même les poissons.
Tout vient vers Kinshasa.
Voilà, tout vient à Kinshasa. Et donc, il y a des enfants qui sont mal nourris. Au niveau de la région centrale, bien sûr qu'il y a un problème de malnutrition dans les Kasaï et même dans certaines parties du Katanga. Donc, je ne sais pas si vous êtes satisfait, mais je...
Voilà, je crois que cette fois-ci,
je peux vous dire que moi, j'ai, comme jeune médecin, j'ai travaillé à l'Équateur, à l'hôpital général de Djoulou. Je n'ai vu qu'un seul cas de malnutrition sévère. Et la maman venait de Kinshasa. Je n'ai vu qu'un seul cas.
Alors, professeur, une autre question de savoir, quelles sont les stratégies à mettre en place pour encourager l'allaitement maternel exclusif?
C'est-à-dire qu'il faut dire aux mamans que c'est pendant ces 6 mois. Et l'être que vous avez de mettre au monde, c'est parmi les êtres les plus chers pour vous et votre mari et la famille. Donc, il faut faire tout. Il y a des connaissances qui montrent que l'enfant, pendant la conception, dépend entièrement de la mère. Donc, nous devons faire tout pour que la maman qui est en grossesse, qui est enceinte, soit bien nourrie pour que son enfant aussi soit bien nourri. Après l'accouchement, ce qui est dit, ce qui est correct, c'est qu'il faut allaiter exclusivement au sein de la mère, l'enfant, pendant les 6 premiers mois de la vie. À partir de la fin du 6e mois ou le 7e mois, il faut commencer à ajouter...
On peut donner un peu de foufou.
On peut commencer à ajouter certains aliments. Et ce que nous conseillons, c'est conseiller aux mamans de continuer avec l'allaitement jusqu'à 1 an, même jusqu'à 2 ans, en ajoutant.
Certaines mamans elles n'aiment pas à cause de leur poitrine, elles veulent bien garder leur poitrine, elles se disent qu'en continuant à donner l'allaitement.
Une maman qui allaite correctement son enfant, qui soigne ses seins, il faut soigner aussi les seins. Après avoir donné les seins à l'enfant, il faut nettoyer, il faut porter des habits pour protéger tout ça. En tout cas, vous ne verrez pratiquement pas que cette maman a eu autant d'enfants, parce qu'elle s'est soignée correctement. Hein, les mamans sont là.
Voilà, comment lutter contre la malnutrition infantile en RDC.
Alors, les problèmes de constipation...
Voilà, revenons à la question de constipation. Un enfant de 3 mois, oui, constipé, comment expliquez-vous cela, professeur?
C'est-à-dire qu'un enfant qui a des problèmes de santé, même s'il est en période, cette période où nous disons allaitement exclusif, donc au lait maternel, il faut, si un enfant a un problème de santé, il faut l'amener au centre de santé ou à l'hôpital. Et c'est là, parce que je ne peux pas dire l'enfant est constipé, faites ceci. Non, il faut l'amener, on va le consulter, on va diagnostiquer, on saura ce qu'il y a, et à ce moment-là, le médecin va prendre en charge.
Mais que peut être la cause de cette constipation chez l'enfant?
S'il vous plaît.
Que peuvent être les causes de cette constipation chez l'enfant?
Mais je vous dis qu'il faut l'amener au centre de santé.
Oui, ça c'est la démarche à faire après, mais on peut tout de même savoir les causes, les raisons qui peuvent conduire un enfant à avoir une constipation.
Si,
c'est difficile. Hein.
Oui, non, c'est-à-dire si l'enfant est exclusivement nourri au sein, normalement il ne doit pas être constipé. Normalement. Mais si vous voyez qu'il y a constipation, c'est qu'il y a un problème.
Il y a un problème.
C'est pour ça que je vous dis...
Il faut l'amener voir le pédiatre. D'autres questions? Alors, on va prendre peut-être 2 ou 3 dernières questions avant de terminer cette émission. Oui?
En fait, c'est Joël Issachi depuis l'ISTEM. Je veux savoir quel est le traitement approprié pour un enfant souffrant de la malnutrition aiguë sévère.
Merci. Une autre question?
Alors, moi, c'est Basile Young. Je m'adresse au professeur. En vous suivant, les 6 millions-là, vraiment, c'est malheureux. Dans l'ancien temps, on voyait les agents sanitaires passer dans le fin fond du village, faisaient des sensibilisations. Tout le monde était là. Les enseignements passent, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est parti. Et aujourd'hui, nous sommes 6 millions. Et demain ou l'après-demain, ça sera combien? Mais nous sommes avec vous ici. Quelles sont les stratégies? Nous sommes des acteurs de développement. Nous sommes ici.
Où sont passés tous ces agents sensibilisateurs? On les voit plus sur terrain.
Mais c'est ça. Où sont-ils? Le gouvernement est là. Et il faut aussi Vous avez dit tout à l'heure, il faut changer la législation. Les 6 mois qu'on donne le congé aux femmes, là, tout ça. Vous voyez, donc il y a beaucoup à faire pour vous. Quand vous êtes ici, nous sommes avec vous. Après cette histoire, comment allons-nous maintenant pallier cette situation-là?
On a trouvé des solutions ici même. Oui, vous avez la parole.
Encore moi, M. Ludovic. Là, je m'adresse à...
Aux trois panélistes.
Aux trois. La petite expérience de notre centre pour la période d'après 6 mois. Nous avions connu aussi dans notre centre des cas de malnutrition enfantine. Mais la correction a été faite par un apport de la pâte d'avocat additionnée à un peu du miel. Et les résultats ont été assez remarquables. Les enfants qui ont été nourris à l'avocat et au
pâte
miel,
d'avocat, ça existe, hein?
Disons, l'avocat, on fait la pâte
Et
au miel. Les résultats ont été assez remarquables à tous égards. Du point de vue physique, même
mental.
La capacité mentale. Là, je voudrais m'adresser encore au professeur Okito, en rapport avec votre programme national, parce que vous avez parlé du programme national. Merci pour l'observation, professeur. Est-ce que dans notre programme national, il y a une catégorie d'aliments qui accompagne les centres qui récupèrent les enfants malnutris? Et si c'est le cas, a-t-on aussi des programmes de production de ces aliments-là? Voilà ma préoccupation.
Merci. La dernière question. On va prendre la dernière question.
Allez-y. Oui, moi c'est Bakatenda, étudiant à l'ISTEM. Je pose ma question à tous les intervenants. Ma question est celle-ci. Si la malnutrition peut prévenir seulement d'alimentation inadéquate. Parce que depuis que vous parlez que de la malnutrition provient de l'alimentation inadéquat. Je ne sais pas si l'hygiène aussi peut jouer un rôle très important à la malnutrition. De deux, d'autres mamans se plaignent beaucoup pour leurs enfants. Dès un certain âge, les enfants ne mangent presque pas. Même les lait maternel, ils n'en veulent pas. Je ne sais pas. Dans ces cas-là, que feront les mamans? Merci.
Merci pour toutes ces questions. Docteur Victor, vous avez la parole.
Je vais essayer de répondre à une ou deux des questions et peut-être garder deux autres questions pour Docteur Noël et Monsieur le Professeur. Je vois qu'il y a pas mal d'intervenants qui ont posé la question à répétition. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et je prends ça comme un signe d'engagement et de préoccupations et des soucis. On sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire on sait très bien comment prévenir la malnutrition chez les enfants. On en a parlé en longueur, mais je résume. L'alimentation de la femme pendant la grossesse, pour assurer que cette femme a une alimentation qui lui convient et convient à la croissance de son enfant. L'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie et une alimentation de complément à partir du 7e mois alors que l'allaitement maternel continue. Au sujet de l'alimentation de complément, on était dans ces quartiers dont professeur Noël, docteur Noël faisait référence tout à l'heure.
Babumbu, oui.
Et on a trouvé une façon magnifique d'expliquer, donc les mamans ont trouvé une façon magnifique d'expliquer aux autres mamans qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de complément convenable. Et ils ont trouvé ce concept de 4 étoiles. C'est-à-dire, une alimentation 4 étoiles, c'est une alimentation qui, pour l'enfant, inclut de la farine de maïs, une légumineuse, par exemple le soja, un fruit, par exemple une banane, de la mangue, et de la protéine animale, par exemple le lait ou un œuf. Donc, ces mamans qui disaient aux autres mamans, là, l'alimentation de ton enfant doit être 4 étoiles. Si une étoile manque, c'est pas bon.
Oui.
1, 2, 3 fois par jour. Minimum 3 fois par jour. Donc vous voyez, de façon très simple d'expliquer, une mère expliquant à une autre mère comment faire pour nourrir ton enfant. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut faire ça à l'échelle. Et il faut faire ça pour tous les enfants du Congo et pour tous les enfants des autres pays de l'Afrique et ailleurs de l'Afrique. Pour cela, il faut un programme national. Et un programme national qui va financer des personnes qui vont prêter des services, des conseils, du soutien, des informations aux mamans et aux papas, parce que trop souvent on parle de la malnutrition comme si c'était un problème des mamans, c'est aussi un problème des papas, et les papas ont une responsabilité. Et finalement, que faire pour les enfants qui ont une malnutrition sévère? C'est une question très importante, et il y en a beaucoup aussi en République démocratique du Congo. Un enfant qui tombe dans la malnutrition aiguë sévère, c'est un enfant qui est à risque de mourir. Et donc, il faut intervenir rapidement. Il faut l'identifier le plus tôt possible avant que cet enfant développe des complications médicales qui sont difficiles à soigner et qui pouvaient lui coûter la vie. Et il faut fournir à cet enfant un aliment thérapeutique, c'est-à-dire un aliment qui est conçu pour prendre en charge cet enfant qui est dans un stade critique. Cet aliment thérapeutique peut être produit dans le pays. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui produisent déjà des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi et doit faire partie de cette prise en charge de la malnutrition chez les enfants.
Mmh. Docteur Noël Zagré.
Oui, je vais juste rebondir sur ce que disait docteur Victor sur le fait que on sait ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut maintenant, c'est comment faire en sorte que ça puisse toucher le plus grand nombre. Et je pense que ça c'est très important et ça interpelle tout le monde. Maintenant, quelqu'un demandait aussi comment on va faire, parce qu'il y a des femmes qui se plaignent parce que leurs enfants refusent de manger.
Ouais, ils ne veulent pas
téter. Ils ne sont pas intéressés. Et ils veulent téter, ça c'est vrai, mais aussi même ceux qui ont plus de 6 mois ne veulent pas prendre l'aliment de complément, et, comme on dit. Alors, je pense que c'est vrai, ça fait partie des réalités que l'on vit. Quelquefois, il y a des raisons qui peuvent être médicales si l'enfant est malade, mais en dehors de ces raisons médicales...
Des caprices, tout simplement.
Voilà, il faut justement arriver pour que le moment où l'enfant doit prendre son repas soit un moment de bonheur. Il faut que vraiment ce soit un moment où ce qu'on dit par exemple la magie entre la maman et son enfant, la magie entre le papa et son enfant, la magie entre celui qui garde l'enfant et l'enfant, ça doit être un moment où l'enfant est à l'aise, on doit pouvoir jouer avec l'enfant, et évidemment on doit aussi connaître comment faire en sorte que l'enfant adopte le goût, parce que quelquefois le goût de ce qu'il faut n'est pas forcément le goût que l'enfant va aimer, mais il y a des moyens, il y a des possibilités de faire en sorte que cet enfant puisse adopter. Alors, je vais mettre ça aussi en parallèle avec souvent la position sociale de la femme qui travaille peut-être toute la journée dans un bureau avec beaucoup de dossiers, qui arrive le soir à la maison, fatiguée, stressée, et elle doit prendre le temps qu'il faut pour suivre son bébé et lui donner à manger correctement. C'est pas facile, ça demande un soutien de toute la famille. N'en parlons pas de nos sœurs, de nos épouses qui sont dans les villages, qui passent la journée dans les champs, qui doivent chercher de l'eau, du bois, qui reviennent, ils doivent laver les enfants. Ce n'est pas une mince affaire. C'est pour dire que l'alimentation d'un enfant requiert toute notre énergie, tout notre amour, toute notre attention.
Merci docteur Zagré. Professeur Émile Okito, vous avez la parole. Tout à l'heure, on a entendu qu'un enfant, comment récupérer un enfant malnutri, une pâte d'arachide mélangée au miel, ça peut aider à résoudre le problème. Pâte d'avocat.
Mais je voulais d'abord parler des infections à répétition qui est à la base. C'est-à-dire les infections créent un cercle vicieux entre donc infection
micro,
et malnutrition.
Oui. Hein, micro.
la malnutrition va entraîner les infections vont entraîner la malnutrition. Si un enfant entre dans ce cercle vicieux-là, c'est difficile de le sortir. Donc, il faut toujours essayer de prévenir toutes ces infections-là. C'est pour ça qu'il y a un programme national qu'on appelle PEV. Il faut faire vacciner vos enfants correctement. Il faut, comme on a dit là, nourrir correctement l'enfant avant qu'il entre dans ce cercle vicieux-là. Ça, c'est important. Et maintenant, à ce qui concerne l'avocat et le miel, bien sûr que dans l'avocat, il y a un peu d'hydrate de carbone, il y a un peu de protéines, mais il y a beaucoup d'oligo-éléments, il y a de vitamines, il y a de sels minéraux. Donc, ça apporte quelque chose. Dans le miel, c'est essentiellement du fructose, c'est un hydrate de carbone. Donc, ce sont les aliments que vous avez cités ici. Il y a des hydrates de carbone, le fructose dans le miel. Il y a quelques éléments nutritifs qui sont dans l'avocat. Mais ce que l'avocat fait aussi, c'est de stimuler l'appétit de l'enfant. Bien sûr que ces enfants qui mangeaient l'avocat ne mangeaient plus que l'avocat. Parce que l'appétit s'est réveillé et ces enfants ont commencé certainement à manger d'autres choses. Je ne sais pas si vous pouvez les confirmer. Donc,
voilà, il y a aussi une autre question par rapport aux catégories d'aliments pour récupérer les enfants malnutris. Tout à l'heure, docteur Victor a parlé des quatre étoiles et les mamans sont bien informées par rapport à cela.
C'est-à-dire que ça doit continuer. C'est le grand problème que nous avons. On élabore des très bons plans, mais ces plans restent dans les tiroirs. Faute de ressources, que ce soit des ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. Donc, on n'arrive pas, c'est pour ça, à mettre en échelle tout ce qui est prévu dans ce plan-là. On a de très beaux plans, mais il faut avoir toutes ces ressources-là. Alors maintenant, pour avoir toutes ces ressources...
En quelques secondes, pour terminer,
professeur. Oui, c'est-à-dire qu'il faut, bien sûr, sensibiliser le gouvernement et l'État pour arriver à mobiliser les fonds. Vous savez, je vais vous dire, le budget de l'État... Je ne sais pas, le budget qui a été soumis hier, ça représente combien, mais jusqu'à présent, c'est autour de 4%. Et le taux de décaissement n'est que de 60%. Comment voulez-vous résoudre le problème de santé en RDC avec 4%?
Avec 4% de budget. Merci, professeur. Et c'est par ici, sous vos applaudissements, c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission spéciale au Capi Service. Sur la malnutrition infantile en République démocratique du Congo. Applaudissez pour vous-même, chers participants. Merci d'être venus et nous disons merci à Dr Victor Aguayo, directeur de la nutrition à l'UNICEF. Merci à Dr Noël Zagré de l'UNICEF et nous disons également merci au professeur Okito Londa, professeur de nutrition à l'université de Kinshasa. Tati Mapoukou était à la réalisation. Sylvain Baoukouere à la mise en onde. Jody Daniel Kachama au micro, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.